Nous reprenons où nous en étions lors de la dernière séance. Je vous disais que, après la critique radicale de la métaphysique opérée par Kant, des penseurs allemands avaient éprouvé le besoin de retrouver, quelque part, une autre figure de l'absolu. Ils avaient cru l'avoir trouvée dans une Grèce antérieure à la naissance de la métaphysique. Et désormais, pendant une bonne partie du XIXe siècle, cette Grèce présocratique sera idéalisée, portée au nu, surtout en Allemagne, et on la jugera en effet source de vérité essentielle à la vie, vérité écartée et interdite précisément, dira-t-on, par l'intellectualisme du socratisme et d'une partie de la tradition métaphysique instaurée dans le sillage de celui-ci. Alors je vous avais lu ce passage d'un article d'un philosophe français, Daniel Saint-Illan, intitulé « Les grâces des Grecs et la philosophie » de Platon à Hegel, paru en 2003 dans la revue « Les études philosophiques ». Saint-Illan y montrait que ce nouvel intérêt philosophique pour la Grèce présocratique se cristallisait précisément sur la notion de grâce. Alors je relis le passage en question pour vous le remettre en mémoire. « Dans les dieux de la Grèce », poésie de Schiller, « le monde des dieux grecs en fuit est désigné comme celui où régnait la grâce. Puis dans les artistes, dit Künstler, autre long poème, comme celui où jouaient les grâces, celui où l'esprit avait revêtu de grâce la nécessité. Alors dans ce monde, en effet, régnait la joie, je lis une strophe du poème Les Dieux de la Grèce, la gravité sombre, l'austère abstinence étaient bannies de votre joyeuse religion, il s'adresse aux dieux grecs. Tous les cœurs devaient être heureux, car le mortel heureux était votre allié. Alors rien n'était sacré que le beau. Le dieu n'avait honte d'aucune joie quand la grâce ordonnait. Vos temples étaient riants comme des palais, les luttes des héros, les fêtes, les couronnes de lisme et les courses de chars étaient pour vous autant d'hommages. Autour de vos autels se formaient des danses vives, pleines d'expression. Les lauriers de la victoire paraient votre front, les couronnes s'élevaient sur votre tête parfumée. Donc dans ce monde rayonnent en effet tous les charmes des charites et les traits superlatifs de la vie, joie, beauté, danse, gloire du guerrier ou de l'athlète. Schiller élabora ensuite formellement cette idée dans son premier essai philosophique « Von Anmut und Würde » sur la grâce et la dignité, où il commentait la philosophie de Kant et spécialement la critique du jugement qu'il venait de lire. L'on sait, dit Saint-Illan, qu'en 1793, après avoir lu la critique de la faculté de juger, c'est à cette notion de la grâce que Schiller a consacré son premier essai philosophique et qu'il a cru alors pouvoir se tourner vers la notion de grâce en la réactualisant pour y trouver rien de moins que ce qui permettrait de tisser un lien entre ce que Kant laissait séparer par un infranchissable abîme, à savoir la nature et la liberté, l'apparaître sensible et la moralité. Alors je vous avais dit un mot de l'influence de cet essai de Schiller sur les élèves du séminaire protestant de Tübingen, le Stift de Tübingen, où étaient condisciples, vous le savez, Hölderlin, Schelling et Hegel. Et c'est là précisément que nous en étions à la fin de la dernière séance. Alors, quant à l'influence de Schiller sur le jeune Hegel, voici ce que nous dit Saint-Illan. Dans les fragments de l'époque de Tübingen, Hegel désigne la Grèce comme le monde où les sages et les héros sacrifiaient aux grâces, comme celui où l'on a su, en accord avec les grâces, tisser une couronne de roses autour du lien de la nécessité. Donc Hegel reprend, vous le voyez, l'idée de Schiller, selon laquelle dans la Grèce ancienne, l'esprit avait revêtu de grâce la nécessité. Pensée intéressante, car la nécessité, le fatalisme, le déterminisme, tout cela est dur. Mais les Grecs, précisément, savaient alors le vivre avec grâce, parce qu'ils n'étaient pas encore obsédés par la liberté du sujet. Ils ne voyaient pas dans l'ordre du monde une contrainte quelconque, ils n'y voyaient rien qui les aliénât. Et comme dit Saint-Illan, Hegel peut alors évoquer, toujours dans les fragments de l'époque de Tübingen, Hegel peut évoquer le génie de la Grèce comme ce beau jeune homme que nous aimons, même dans son insouciance, accompagné de tout le cortège des grâces et du souffle balsamique de la nature. Ajoutant que l'âme de ce jeune homme, dans les siècles ultérieurs et jusqu'à aujourd'hui, s'est enfuie de la terre. Voilà, ce monde a disparu. Alors toutes ces formules sont inspirées de Schiller, qui atteste que Hegel a pu voir dans les charites chères à Schiller la figuration de la vie sous la forme où elle était censée habiter la belle totalité grecque, en deçà des oppositions du sujet et de l'objet, de la raison et de la sensibilité, de la nature et de la liberté. Alors, c'est donc sérieux, hein, pour les Grecs, il n'y a pas, en tout cas pour autant qu'on le sache, pour les Grecs de cette époque, il n'y a pas d'opposition entre nature et liberté, parce que tout simplement il n'y a pas encore de loi de la nature. Donc tout peut être grâce. Et donc, chaque fois qu'aujourd'hui nous voyons quelque chose de gracieux et que nous le reconnaissons comme tel, un être humain, un autre être naturel, un événement heureux, une circonstance exceptionnelle, et surtout si cette grâce est très intense, hein, très spéciale, irrésistiblement séduisante, eh bien, nous retraversons en sens inverse, pour ainsi dire, en un instant, l'histoire de la philosophie comme métaphysique. Et nous communions à nouveau, que nous en soyons conscients ou non, avec la Grèce présocratique. Nous réfutons, hein, nous ne voulons plus voir, nous ne tenons pas compte d'eux, la distinction apportée par la philosophie entre le monde sensible et le monde intelligible. Nous faisons de nouveau et spontanément l'expérience d'une autre figure de l'esprit, un esprit incarné, se manifestant comme chair, corps, forme et sensibilité, présence au monde et présence à la terre, au sens où Nietzsche prendra ce terme. Alors Daniel Saint-Sillon ajoute qu'il ne sera sans doute plus trop question du monde de la grâce dans l'œuvre ultérieure de Hegel, pour la bonne raison que ce sera, quand le système de Hegel va être en place, ce sera à la dialectique, incluant en elle le travail du négatif, qu'il appartiendra de réunir, dans le cadre d'une série d'oppositions successivement dépassées, les éléments qui étaient intimement unis dans le monde naïf de la Grèce archaïque. Donc les grâces d'Écarite reparaîtront dans l'art, pensées comme un des moments de la vie de l'esprit. Et on verra à ce sujet les pages significatives qui lui seront consacrées dans l'esthétique. Et aussi dans une page célèbre de la phénoménologie de l'esprit, où Hegel parle de la religion révélée. Je cite Saint-Hillon, il évoque les tables des dieux, à présence en nourriture, les statues dont l'âme animatrice s'est enfuie, les jeux et les fêtes, qui n'assurent plus la bienheureuse unité de la conscience avec les sens, les œuvres des muses, qui ne sont plus que comme des fruits détachés de leur arbre. Donc, tout ce monde disparu de la grâce grecque. Mais là encore, ce n'est plus traité au stade de la phénoménologie comme un âge d'or auquel il faudrait revenir, mais comme une étape de l'histoire qui a eu son temps, son heure de gloire, mais qui a été heureusement dépassée et conservée par la philosophie hegélienne. Bien. Alors cependant, cette nostalgie de la Grèce présocratique, non encore atteinte et éteinte par l'idéalisme, est présente encore quelques années plus tard, et avec un éclat tout particulier chez Nietzsche, dans la philosophie de qui, vous le savez, se parachève tant le rejet du socratisme et du christianisme que le recours précisément à différentes figures de la grâce. Et je veux citer à cet égard un texte fameux d'Ainsi parlait Zarathoustra, Les Trois Métamorphoses, où il est bien question de la grâce, puisqu'il est question d'échapper à la pesanteur. Et à l'esprit de pesanteur, il y a un chapitre de Zarathoustra qui porte ce nom. Et l'être qui seul peut y parvenir, d'échapper à la pesanteur, est un personnage en qui nous avons reconnu précisément une des figures typiques de la grâce, à savoir l'enfant. Et je lis d'entrée de jeu cet aphorisme célèbre de Nietzsche, hein, « L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une affirmation sainte. » Alors, lisons les passages essentiels de ce texte. Je vous rappelle qu'Ainsi parlait Zarathoustra, qui date de 1885, est selon Eugen Fink le sommet de l'œuvre de Nietzsche, hein, le point où parvient sa pensée après une lente ascension par les ouvrages « Humain trop humain »,« Aurore »,« Le gai savoir », et avant une période où les idées acquises à l'époque de Zarathoustra seront utilisées dans de nouvelles œuvres qui les développeront sans rien y ajouter, selon Fink. Ce seront donc, par-delà bien et mal, « Généalogie de la morale », « Le cas Wagner », »,« Le crépuscule des idoles »,« Nietzsche contre Wagner »,« L'antéchrist » et « Che Homo hein. ». Alors, tout ça ne fait que mettre en musique, en quelque sorte, décliner les vérités essentielles qui avaient été établies ainsi par les Zarathoustra. Alors, le texte « Les Trois Métamorphoses » figure au début même d'Ainsi par les Zarathoustra, et j'en retiens donc les passages essentiels. « Je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit. comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Alors le chameau d'abord, hein, il est main fardeau pesant pour l'esprit patient et vigoureux, en qui domine le respect, et sa vigueur réclame le fardeau pesant, le plus pesant. Et qu'y a-t-il de pesant ? Ainsi interroge l'esprit robuste, et il s'agenouille, comme le chameau, et il veut un bon chargement. Hein. Qu'y a-t-il de plus pesant ? Dites-le, afin que je le charge sur moi, et que ma force se réjouisse. Alors, ce plus pesant que veut le chameau, c'est, je cite à nouveau le texte, « souffrir la faim dans son âme, pour l'amour de la vérité. Se lier d'amitié avec des sourds qui n'entendent jamais ce que tu veux. » Descendre dans l'eau sale, si c'est l'eau de la vérité, et ne point repousser les grenouilles visqueuses et les purulents crapauds, aimer qui nous méprise, et tendre la main au fantôme lorsqu'il veut vous effrayer. Bon. Nietzsche essaie de caractériser par ses formules imagées ce qu'il y a de commun, suppose-t-il, au socratisme et au christianisme, c'est-à-dire un amour de la vérité et du devoir moral qui irait, en fait, jusqu'à tuer la vie. Et c'est là pour Nietzsche par excellence ce qu'il appelle l'esprit de lourdeur. Bien, alors le chameau prend ceci en charge. Mais cependant, où va-t-il ainsi chargé, hein ? Il va, comme doit aller toujours un chameau, au désert, c'est-à-dire à la stérilité. Alors l'esprit humain va refuser cette option, hein, il va se révolter. Alors écoutons la suite. Au fond du désert le plus solitaire s'accomplit la seconde métamorphose. Ici l'esprit devient lion. Il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert. Il cherche ici son dernier maître, il veut être l'ennemi de ce maître. Il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. Et quel est le grand dragon que l'esprit ne veut plus appeler ni Dieu ni maître ? Tu dois, s'appelle le grand dragon. Mais l'esprit du lion dit « je veux ». Tu dois le guette au bord du chemin, étincelant d'or sous sa carapace aux mille écailles, et sur chaque écaille brille en lettres dorées « tu dois ». Des valeurs de 1000 années, on pourrait même dire de 2000 années, puisque socratisme et christianisme ont 2000 ans quand Nietzsche écrit ceci, hein, brillent sur ses écailles. Et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons, tout ce qui est valeur brille sur moi. Eh bien, le dragon prétend donc représenter tout ce qui a de la valeur. Et il ne veut pas entendre parler d'autres valeurs qui seraient créées par l'homme. Il veut éliminer tout « je veux ». Et si le chameau s'est soumis à cette interdiction tyrannique, eh bien le lion, lui, se révolte. Il veut, et même il veut vouloir, et il veut ainsi pouvoir créer ses propres valeurs. Alors, cependant, poursuit Nietzsche, il ne le pourra pas tant qu'il sera seulement dans la révolte, dans le ressentiment, le fameux ressentiment nietzschéen. Car, aussi longtemps qu'il aura cette attitude, il sera encore dépendant de cela même qu'il conteste. Il sera encore, dirait-on dans une autre langue, aliéné, je dis une autre langue parce que Nietzsche n'emploie pas le mot. Et donc, aussi longtemps que vous luttez contre qui vous tyrannise, eh bien, vous restez son esclave. L'œuvre propre du lion n'est donc que provisoire. Mais elle est cependant nécessaire pour entamer au moins le processus de libération. Je cite Nietzsche, « Se rendre libre pour la création nouvelle, c'est ce que veut la puissance du lion. Se faire libre, hein, opposer une divine négation, même au devoir, telle est, mes frères, la tâche où il est besoin du lion. » Et il peut accomplir cette tâche parce que c'est une bête féroce. Hein, et c'est bien pourquoi on a besoin de lui. Il faut que l'homme sache se faire lion à un certain moment. Mais, une fois cette libération accomplie, il faut se détacher, hein, se purifier de toutes les écailles du dragon, en quelque sorte. Et le lion ne le peut pas, parce que tant qu'il lutte, les écailles du dragon continuent à se coller à lui, pour ainsi dire. Donc il faut une nouvelle métamorphose. Il faut que l'esprit devienne enfant. Dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire ? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant ? Eh bien, c'est parce que, donc on retrouve l'aphorisme que j'ai cité au départ, hein, l'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une affirmation sainte. Oui, pour le jeu divin de la création, ô mes frères, il faut une sainte affirmation. L'esprit veut maintenant sa propre volonté, celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde. Bon, voilà. Donc ça, c'est dans Nietzsche, ainsi par les Zarathoustra, début de la partie 1. Alors seulement un tel être pourra créer des valeurs. L'enfant, présenté dans ce texte, les trois métamorphoses, c'est donc la vie, avec un grand V, au sens où Nietzsche l'entend. C'est un être en qui ne sont pas séparés et ne s'opposent pas raison et sensibilité, liberté et nature, devoir et vouloir. La seule chose qu'il croit devoir faire, précisément, c'est vouloir. Donc il n'y a plus de normes, plus de devoir moral, au sens des dialogues platoniciens, plus de loi, au sens biblique, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Et alors, en effet, en cet enfant nietzschéen, il est bien certain qu'une certaine grâce antique reparaît, et avec elle, une certaine graisse pré-philosophique qui est rejointe par-delà les siècles. Mais que penser de cet enfant ? Allons-nous, à notre tour, lui vouer un culte ? Sa grâce, certes, ne fait pas de doute, mais on peut penser qu'il jouerait sans doute très sereinement aux osselets devant les misères et les catastrophes humaines, en tout oubli, innocence, affirmation sainte, en toute ignorance du dragon du devoir moral. Peut-être donc le fait de porter au nu ce genre de grâce n'est-il pas le dernier mot de la pensée humaine ? En tout cas, ni les philosophes ni le christianisme ne l'ont fait. Le Socrate du Phédon n'a pas adopté cette pensée pour une raison que Platon explique tout au long de ce livre fondateur de la métaphysique, c'est que cette vie gracieuse est sensible, donc soumise au temps, passagère, évanescente, alors que ce qui semble être vraiment désirable, c'est l'éternel. C'est aussi que cette vie est irrationnelle et injuste, alors que le désirable, c'est le bien. Et c'est précisément ce que Nietzsche combattra avec la dernière énergie. Il dira qu'il faut aimer la vie, la terre, dans leur côté sensible, passager, temporel. Et comme la vie, la terre, passe, il faut donc aimer le passage comme tel, c'est-à-dire toutes les contingences de la vie, la fuite du temps, et pourquoi pas la maladie, la souffrance, la mort, mais aussi la guerre, et les injustices ou les imparfaites justices, l'eau de toute vie. Ceci dit, Nietzsche aura du mal à aimer lui-même le passage en tant que passage, puisqu'il éprouvera le besoin de construire cet étonnant château de cartes conceptuel qu'est sa doctrine de l'éternel retour, qui lui permet de retrouver, pour ainsi dire, l'éternité au second degré. Tout passe, mais tout passe éternellement. Soit. Mais on peut estimer que cette thèse est philosophiquement assez mal étayée. D'ailleurs, Nietzsche ne l'a formulée que dans de rares textes fort énigmatiques. Le christianisme non plus n'a pas pensé que les trois grâces païennes étaient le secret ultime de la vie. Il a pensé que la vie charnelle que les grâces symbolisent n'est pas le seul bien, ou n'est pas par soi seul le bien, qu'il y a ailleurs une vie meilleure et plus vraie. Certes, tant qu'il y a des générations nouvelles qui naissent pour remplacer celles qui meurent, tant qu'il y a des jeunes filles belles et qui dansent, des guerriers forts, des rois charismatiques, l'humanité peut assurément perpétuer son existence cyclique et continuer à vivre sans tenir compte des murmures ressentimenteux des prophètes hébreux, des prêtres, des faibles, des blessés de la vie, de tous ceux que Nietzsche appelle peu charitablement des avortons. L'humanité peut survivre donc, et la roue de la vie peut tourner. Mais la question est de savoir pour aller où et comment. Et faudra-t-il y aller avec toujours les mêmes injustices, et ceci sans espoir de changement. La pensée humaine a cherché autre chose, et il est émouvant et peut-être providentiel, qu'ici les métaphysiciens et les chrétiens, pour penser cette autre chose, aient fait en somme cause commune et front commun contre les dieux de la Grèce. Lequel de ces deux combattants d'un tel front a-t-il le mieux résisté aux sirènes des dieux grecs ? Peut-être pas la métaphysique, qui a fini par se lézarder au temps contemporain sous les coups de boutoir, non seulement de la philosophie critique de Kant, mais de la science moderne, si l'on en croit Auguste Comte, qui a posé que la pensée européenne au XVIIIe, XIXe siècle était en train de passer de l'état métaphysique, précisément, à l'état positif, comme il dit. Le christianisme avait-il de meilleurs atouts pour tenir tête aux grâces? Pouvait-il proposer une autre figure de la grâce, éventuellement plus séduisante, plus forte, plus convaincante que la charis grecque, au point qu'on pourrait abandonner celle-ci sans trop de regrets, et qu'on pourrait aussi estimer de peu de valeur les tentatives modernes de la ressusciter? C'est ce qu'il nous faut examiner maintenant, et je passe donc à la troisième partie de notre dissertation. Peut-être pas la métaphysique, qui a fini par se lézarder au temps contemporain sous les coups de boutoir non seulement de la philosophie critique de Kant, mais de la science moderne, si on en croit Auguste Comte, hein, qui pose que la pensée européenne est en train de passer au XVIIIe, XIXe siècle de l'état métaphysique, justement, à l'état positif. Bien. Alors, le christianisme avait-il de meilleurs atouts pour tenir tête aux grâces? Est-ce qu'il ne présentait pas aussi une figure de la grâce, plus séduisante peut-être que les charites? C'est ce qu'il nous faut examiner maintenant. Et je passe donc à la troisième partie de notre dissertation. Alors passons à cette troisième partie qui est la grâce chrétienne. Notons d'entrée de jeu une différence de principe entre la conception chrétienne de la grâce et la conception païenne, celle des grâces de la vie. La grâce chrétienne, c'est une épiphanie de Dieu, et donc une action de Dieu, mais entendue comme action spéciale dirigée vers des personnes singulières et dans des temps singuliers, n'en déplaise à Voltaire, dont je dirai tout à l'heure la position à cet égard. Dieu fait grâce à ceux qui le prient, à ceux qui le cherchent, mais aussi, et peut-être surtout, à ceux qui ne le cherchent pas. Et nous allons parler dans un instant de cette sorte de cas d'école qui est à cet égard le chemin de Damas, hein, grâce accordée à saint Paul, mais inattendue entre toutes, hein, reçue par lui, alors même qu'il combattait rageusement les chrétiens, et certes, ne cherchait pas Dieu ni le Christ. Bref, Dieu fait grâce, en fait, à ceux qu'il choisit, hein, qu'il élit, et qu'il aime. Hein. « Tu es mien, je t'ai appelé par ton nom », Isaïe 43, 1-7. Et donc, avant la venue du Christ, un peuple et un seul peuple trouve grâce aux yeux de Dieu. Un seul est élu, c'est Israël. Ensuite, ce sera le nouvel Israël, l'Église. Mais ce sera encore une élection, une grâce, celle du Saint-Esprit que l'Église reçoit à la Pentecôte. La grâce de Dieu ne s'adresse donc pas à tous les vivants, mais à ceux que Dieu choisit, et il les choisit parce qu'il les aime, en entendant par amour quelque chose de surnaturel et non de naturel, hein, même si les théologiens disent que Dieu aime toute sa création, donc aussi les plantes et les animaux, et l'homme même en tant qu'il a une nature, mais il y a des degrés différents dans cet amour divin. Dieu donne à tous les êtres une nature et des pouvoirs immanents à cette nature, mais aux êtres spirituels seuls, il donne des dons surnaturels qui subliment et surmultiplient les pouvoirs naturels, et tels sont précisément les dons du Saint-Esprit. Donc en résumé, la grâce chrétienne n'est pas une manifestation de la simple vie naturelle et anonyme, elle suppose des personnes, tant du côté de celui qui donne des grâces que de celui ou de ceux qui en bénéficient. Elle suppose même conscience et volonté, ce qui n'est pas le cas de la jeune fille qui donne sa grâce sans le vouloir, sans même en être consciente. Différence fondamentale sur laquelle nous devrons nous interroger pour finir. Alors je ne peux dans ce cours, évidemment, résumer ni même évoquer sérieusement la théologie chrétienne de la grâce, qui s'est élaborée pendant des siècles, et qui est d'une grande richesse, et d'ailleurs aussi d'une grande complexité. Et de toute façon, si nous entreprenions un tel exposé, nous sortirions du cadre d'une dissertation de philosophie. Je peux du moins, et même je dois, vous présenter quelques faits d'histoire culturelle et quelques idées séminales, en commençant par un texte connu entre tous, où il est question de la grâce, où le mot même est plusieurs fois employé, je veux dire le « Je vous salue Marie ». Donc les chrétiens disent quotidiennement cette prière, hein, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes ». Mais que veut dire ici « pleine de grâce » ? La question est de savoir si Marie a bénéficié d'une plénitude de grâce, si elle est comblée de grâce, ou si c'est elle peut-être qui serait gracieuse, qui attirerait à elle autrui, et pourquoi pas aurait charmé Dieu lui-même. Alors vous savez que cette prière centrale de la liturgie chrétienne est tirée de l'évangile selon saint Luc, narrant l'Annonciation, hein, Luc 1, 25 et suivant. Alors notons tout de suite que le mot employé ici par saint Luc pour grâce est bien le mot grec charis et ses dérivés. Donc pour comprendre le texte, il nous faut d'abord revenir à la question du sens, ou plutôt des multiples sens, du mot charis en grec. J'en avais parlé précédemment, mais il faut y revenir avec plus de précision. On peut distinguer en gros cinq sens, d'après le dictionnaire Bailly. Alors je simplifie certes un peu, car le mot est très riche, mais cela suffira pour notre propos. Premier sens, la grâce qui émane d'un être, hein, grâce extérieure, charme de la beauté, hein, tout ce qui fait qu'un être est dit gracieux. Deuxièmement, la joie et le plaisir qu'éprouve cet être. Troisièmement, la faveur, la bienveillance. Alors là, c'est très différent, hein. C'est la disposition intérieure d'un être qui donne quelque chose à quelqu'un d'autre que lui. Faveur, bienveillance. Quatrièmement, la chose même qui a ainsi été donnée, hein, la faveur dont ce quelqu'un a bénéficié, le service qui lui a été rendu. Donc c'est un sens, disons, objectif, hein, le faveur au sens objectif, par différence avec le sens subjectif qui précède. Enfin, cinquième sens, reconnaissance, gratitude, hein, rendre grâce à Karin et Kain Tini, avoir de la reconnaissance envers quelqu'un. Donc je résume, 1. Beauté, 2. Joie, 3. Faveur comme disposition intérieure, 4. Don, bienfait ou faveur comme réalité objective, et 5. Gratitude. Alors nous pouvons revenir au texte de l'évangile selon saint Luc en nous demandant en quel sens y sont pris le mot charis et ses dérivés. Alors lisons le texte, Luc 1, 25 et suivant. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et dit: réjouis-toi, Kairé, comblée de grâce, Kekaritomene, le Seigneur est avec toi. C'est ce qu'on a traduit dans la prière par je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais cette traduction est sans doute doublement fautive. Et c'est pourquoi la traduction que j'ai sous la main de la Bible de Jérusalem dit plutôt « Réjouis-toi, comblé de grâce ». En effet, le verbe grec « kairé » veut bien dire « Réjouis-toi » et non pas « Salut hein, » comme le « Salvé » latin qui fait référence à la santé. Hein. Certes, c'est la formule de « Salut » couramment employé par les Grecs, et sans doute lorsqu'ils disent cela à quelqu'un qu'ils rencontrent pour la première fois de la journée, ils ne pensent pas nécessairement à l'idée de réjouissance. Hein. Pas plus que quand nous disons nous « bonjour » à quelqu'un le matin, nous ne pensons explicitement à la bonne journée que ce quelqu'un va passer. Mais il est probable quand même que le salut de l'ange ici fait écho à d'autres appels à la réjouissance qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Où, et c'est là la chose importante, il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, mais de la joie messianique. Enfin, la joie qu'inspire l'advenue du Messie. Alors, par exemple, Isaïe 12, 6 pousse des cris de joie, des clameurs, habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ou Sophonie 3, 14 pousse des cris de joie, fille de Sion, une clameur d'allégresse, Israël. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem, car Yahvé a levé la sentence qui pesait sur toi. Donc Dieu a fait grâce à Israël, il lui a remis une faute ou une dette. Zacharie 2, 14, chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi, oracle de Yahvé. Et le même Zacharie, un peu plus loin, Zacharie 9, 9, crie de joie, hein, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi, hein, voilà, c'est le Messie qui arrive, hein, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, etc., ce que le Christ accomplira en effet lorsqu'il entrera à Jérusalem pour sa passion. Et c'est donc sans doute tout cela que l'ange entend dire à Marie par ce kairé. Hein. Il ne lui dit pas simplement « Je te salue Marie », il dit « Réjouis-toi Marie, car l'ère messianique arrive. Le Seigneur va venir habiter parmi les hommes, et d'ailleurs c'est toi qui le concevra dans ton sein et le mettra au monde. Car il vous a fait grâce, hein, sa venue dans le monde et la grâce qu'il vous fait. » Et l'autre partie de la première phrase de la prière, c'est « pleine de grâce hein, ». Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et là encore, la traduction est peu satisfaisante parce qu'elle donne à penser, et nombre de croyants sincères sans doute font régulièrement cette erreur, que Marie est gracieuse, hein, comme une jeune fille est pleine de grâce. Alors peut-être l'est-elle, et peut-être en effet Dieu du haut du ciel l'a-t-il repérée et a-t-il été charmé par elle, moyennant quoi il l'a choisie, élue. Pourquoi Dieu aime-t-il plus spécialement quelqu'un, un grand mystère. Mais cela peut arriver, songeons au disciple que Jésus aimait, Jean, hein, qu'il aimait donc plus que les autres apôtres. Mais ceci dit, ce n'est pas ce que dit le texte. Le mot grec est en effet « kekaritomene », participe passé du verbe « karizomai », qui signifie « accorder une faveur à quelqu'un hein. ». D'où la traduction « comblé de grâce », qu'on peut expliciter comme suit « toi qui as été et demeures rempli de la faveur divine ». Donc ce n'est pas Marie qui est gracieuse, c'est Dieu qui a exercé une grâce en la comblant de faveur. Et d'ailleurs ce sens est conforté par la suite du texte, hein, je lis, là, à cette parole Marie fut toute troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Eures gar carin para toteo. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, etc. Bon. » Donc « eures » c'est le parfait du verbe risco, trouver, hein, c'est le verbe employé par Archimède, eureka, hein, j'ai trouvé, et confère aussi l'idée de procéder démarche heuristique, hein, la démarche par laquelle on trouve. Donc l'ange dit littéralement à Marie, tu as trouvé une grâce auprès de Dieu, tu as gagné une faveur, tu as reçu une grâce de Dieu. Cette faveur que Dieu accorde est donc exprimée ici par le mot charis. Mais que signifie exactement ce mot dans le grec des évangiles et des autres passages du Nouveau Testament où on le retrouve, notamment dans les Actes des Apôtres et les Épîtres de saint Paul ou de saint Jean. On voit bien que parmi les cinq sens que j'ai distingués tout à l'heure, hein, il ne s'agit pas du premier, ni du deuxième, ni du cinquième. Hein. La grâce de Dieu, ce ne sera pas la beauté rayonnante de Dieu, ni la joie de Dieu, ni la gratitude de Dieu. D'ailleurs, envers qui Dieu pourrait-il éprouver de la gratitude? Donc tout se passe autour des troisième et quatrième sens. Faveur, hein, faveur subjective et objective. Disposition intérieure du donateur à donner, et le don lui-même, la faveur qui a été accordée. Dieu est subjectivement favorable à Marie, et il l'a comblée de faveur objective. Et si les évangélistes emploient le mot dans ce sens, c'est peut-être parce qu'ils ont lu la traduction grecque de l'Ancien Testament, la Septante. Et en effet, un rapide examen de l'emploi du mot « charis » dans cette traduction grecque de l'Ancien Testament va nous confirmer dans ce sens-là de faveur unilatérale de Dieu envers l'homme. Dans la Septante, en effet, « charis » traduit plusieurs mots hébreux qui ont leur propre sens, hein, et qui communiquent donc leur sens à charis, et qui font qu'il a un sens différent de celui qu'il a dans le grec homérique ou classique. Ou si on préfère, les traducteurs de la Septante ont sélectionné dans les sens multiples du mot grec ce qui convenait proprement à l'esprit de la Bible. Et on va voir qu'il s'agit de l'amour de Dieu. Alors, les mots hébreux en question sont, je me fie aux spécialistes consultés, « hen »,« hesed » et « rahamim ». Haine vient d'une racine qui signifie se pencher, s'incliner, d'où le sens de faveur, bienveillance. Dieu donne sa grâce, sa bienveillance, haine, aux humbles. Proverbe 3:34. Et ce texte est cité par 1er épître de Pierre 5:5 et épître de Jacques 4:6, où le mot haine est traduit par charis. Deuxième mot, hesed, piété. Dévotion, confère le mot de hassidisme, hein, et aussi bonté, amour, mais dans le sens de loyauté, fidélité à quelqu'un à qui on est lié, par un lien de parenté, d'amitié, et spécifiquement par l'alliance entre Dieu et l'homme. Donc ce n'est pas la bienveillance purement gratuite qu'exprimait le mot « reine ». De loin, Yahvé m'est apparu, d'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur, Hesed, Jérémie 31:3. Le troisième mot est Rahamim, qui complète les deux précédents en y ajoutant une nuance d'émotion et de sentiment. La racine du mot signifie matrice, il désigne donc une pitié qui vous prend aux entrailles, une tendresse maternelle. On rencontre les trois mots dans un texte, Exode 34:5-9, qui raconte la rencontre de Dieu et de Moïse sur le mont Sinaï. Moïse invoqua le nom de Yahvé, Yahvé passa devant lui, et Moïse proclama « Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse, Rahamim, et de grâce, Hanoun, même racine que Hen, lent à la colère, riche en bonté, Chesed, et en vérité, conservant sa bonté, Chesed, jusqu'à 1000 générations. » Si l'on songe que tous ces mots peuvent être traduits par charis dans la Septante, on comprend que dans le grec biblique et évangélique, charis prenne un sens assez éloigné du sens grec originel. De fait, Yahvé ressemble fort peu au charite. Il n'est pas comme elle beau, ni charmant, ni joyeux. Il est seulement favorable. Mais il faut dire qu'il est infiniment favorable, miraculeusement favorable, au point d'être capable de ne pas regarder les fautes, de tout pardonner, de tout racheter. De sorte que le mot « charis » dans la Septante en vient à signifier quelque chose comme « amour ». Et l'on sait que cet amour, éventuellement jaloux, deviendra conjugal chez les prophètes. Par exemple, Osée, hein, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la bonté, Chesed, et la tendresse, Rahamin, Osée 2:21. Ou Isaïe 54:6-8, oui, comme une femme délaissée et accablée, Yahvé t'a appelé. Un court instant, je t'avais délaissé, mais ému d'une immense pitié, Rahamin, je vais t'unir à moi. D'un amour, Hesed éternel, j'ai eu pitié, Rahamim, de toi, dit Yahvé, ton rédempteur, Goël. Donc les mots hébreux sont ici encore Rahamim et Chesed, et nous rencontrons aussi ici un mot fort intéressant, hein, Goël, rédempteur, défenseur. Dieu était en droit d'accuser la Vierge d'Israël, hein, qu'il avait recueillie alors qu'elle était pauvre et nue au bord du chemin. Il l'avait richement vêtue et il l'avait fait entrer comme épouse dans sa maison, et pourtant elle l'a trompé avec les dieux païens. Elle s'est donnée sans vergogne à tous les étrangers. Or voilà cependant qu'il lui pardonne tout cela, et bien loin de l'accuser, maintenant il la défend au contraire. Il se fait son Goël, celui qui la rachète, son rédempteur. Rédempteur, c'est celui qui rachète. Et ceci parce qu'il l'aime. Il est donc prêt à faire des folies pour elle. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure d'évoquer et le mot Goël, et cette idée de grâce gratuite et folle, enfin déraisonnable, disons, à propos du livre de Job. Voilà donc la charis biblique. Et comme vous le voyez, ce n'est plus une grâce rayonnante de la nature, végétale, animale ou humaine. Ce n'est pas non plus une divinité rayonnante, comme les trois grâces de la Grèce présocratique. Donc ce n'est pas la grâce de la première et de la seconde partie de notre dissertation. C'est une faveur de Dieu, un amour délibérément manifesté par Dieu, et d'ailleurs un amour unilatéral, car même si Israël peut aimer Dieu comme Dieu l'aime, et d'ailleurs cela lui est commandé dans les 10 commandements, eh bien l'initiative semble venir de Dieu seul, et nous serons amenés à préciser plus tard ce point. Le Nouveau Testament transformera l'essai, si je puis dire, lorsqu'il affirmera, comme le fait saint Jean, que Dieu est amour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire seulement que Dieu aime, que l'amour est un acte divin, mais que Dieu est substantiellement amour. Premier épître de Jean 4:16, « Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, Dieu est amour. » Alors il est vrai que l'évangéliste emploie ici le mot « agapé » et non « charis ».« Otéos agapé estin »,« Dieu est amour ». Mais agapé lui aussi prolonge hen, hesed et rahamim, de sorte qu'on retrouve la même pensée de fond. Il s'agit d'un amour que Dieu a pour nous, dont il nous gratifie, il s'agit donc d'une grâce qu'il nous accorde. Et dès lors que cette idée était dans l'Ancien Testament, où il y avait les mots hébreux pour l'exprimer, et que maintenant, comme nous venons de le voir, les auteurs du Nouveau Testament la reprennent à leur tour, en lui donnant un sens plus radical, eh bien, dès lors, donc, une théologie de la grâce va pouvoir naître. Elle naît surtout avec saint Paul, qui va lui donner d'emblée un accent bien marqué, qui sera lié à sa propre expérience de la grâce, celle de sa conversion lors du chemin de Damas. Vous vous souvenez de cette scène fameuse, hein, rapportée dans les Actes des Apôtres, Actes 9, 1, 9. Saül, hein, c'est le nom de naissance de Paul, comme Simon est le nom de naissance de Pierre, ne respirant toujours que menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, faisait route et approchait de Damas, quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu »« Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. « Et lui, je suis Jésus que tu persécutes. » Alors il faut ici quelques mots d'explication que j'emprunte à un article de Sœur Jeanne d'Arc dans le traité de théologie que j'ai déjà cité, « Initiation théologique, hein, édition du CERF, 1963, tome 3 ». Elle nous dit ceci, « Paul est, il le dit lui-même, un pharisien, fils de pharisien. Il appartient donc à la secte qui tente à durcir le plus l'homme dans sa suffisance, à lui procurer une justice par l'accomplissement minutieux et orgueilleux des infinis détails d'une loi surchargée par les scribes et les docteurs. Il a connu le poids intolérable de cette loi et en même temps cette mentalité la plus imperméable à l'esprit de l'Évangile. Les mots effrayants du Christ peuvent seuls nous donner une idée de cette opposition absolue. » Oui, le Christ appelle en effet les pharisiens hypocrites, sépulcres blanchis, race de vipères, génération perverse et adultère, guide aveugle, etc. Donc le Christ, si j'ose dire, manque un peu de charité chrétienne à l'égard des pharisiens. Sœur Jeanne d'Arc continue, hein, « Et sans aucune transition, sans aucune évolution préalable, au plus fort de sa rage, Saül est converti par le Seigneur de la gloire. » Alors, notez que la conversion est un des principaux actes propres de la grâce. Celui qui se convertit le fait parce qu'il a été touché par la grâce, comme on dit, hein. Et nous en avons mille témoignages dans l'histoire ancienne et moderne. Songeons à la conversion de saint Augustin, à Chlorinde qui demande le baptême à Tancrède, hein, dans la Jérusalem délivrée du Tasse, ou au XXe siècle, donc tout près de nous, hein, Charles de Foucault, Ernest Psychary, Claudel, hein, derrière son pilier de Notre-Dame, ou Max Jacob, Jacques et Raïssa Maritain, André Frossard, Maurice Clavel, qui ont tous raconté cet événement extraordinaire de leur vie. Donc voilà saint Paul qui expérimente, comme dit Sœur Jeanne d'Arc, hein, l'emprise irrésistible de la grâce, l'incompatibilité radicale de ce régime où tout est don, où tout vient de Dieu, avec l'attitude pharisienne, donc, qui le raidissait jadis dans cette justice qu'il fabriquait lui-même. Et toute sa doctrine restera marquée par cette expérience unique. Elle sera sous le signe non plus de la continuité et de l'achèvement, mais de la rupture, de l'opposition. Le Christ ne sera pas principalement, pour saint Paul, le Messie des Juifs qui accomplit les prophéties, mais plutôt le Seigneur qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. 1 Timothée 1,15. Saint Paul, autrement dit, fait l'expérience du fait que Dieu prend des décisions discrétionnaires, strictement imprévisibles, transcendant toute loi compréhensible par l'intelligence humaine. Folle, hein, comme saint Paul le dira dans 1 Corinthiens 17,25. En d'autres termes, saint Paul fait rencontre de la transcendance de Dieu. Non sans noter que c'est une transcendance aimante, hein, qui cherche sa personne, qui l'appelle par son nom, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Actes des Apôtres 9,4, et qui vient en plus d'une personne, puisque Jésus prend la peine de se nommer lui-même. Hein, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc les choses se passent entre Jésus et Paul. Et cette expérience, on pourrait sans doute la rapprocher de celle de Job, qui lui aussi a affaire, avec l'équivalent au 5e siècle avant Jésus-Christ, des pharisiens du temps du Christ, c'est-à-dire ses amis, qui viennent le voir ayant appris qu'il est malade, et qui tentent de lui expliquer que son malheur est dû à une transgression de la loi, et que s'il se repent et amende sa conduite pour la conformer à toutes les prescriptions précises de la loi, eh bien il recouvrera la santé, tout reviendra dans l'ordre. Or, Job ne sympathise guère avec cette position d'un dieu technicien, horloger, se confondant avec un mécanisme, et il y voit même une sorte de blasphème. Ce qu'il sait, lui, c'est que, et il le sait de façon assez brusque, lui aussi, il est touché par quelque chose. Il a le sentiment intime, une conviction intime qui survient dans son esprit. Hein. C'est que son défenseur est vivant. Hein. Job 19, 25, et c'est ici le mot Goël, hein, défenseur, rédempteur, que nous avons rencontré tout à l'heure, où il exprimait, vous en souvenez, l'amour d'un Dieu qui prend la défense des hommes. Hein. Il sait que ce défenseur se lèvera pour prendre sa défense, et qu'à la fin, de sa chair, lui, Job, verra Dieu. Hein. Et nous avons là, assurément, une figure anticipée de la grâce chrétienne. Notez ici que nous sommes donc très loin du socratisme et de la métaphysique, hein, qui ont certes horreur de toute folie, hein, sauf peut-être le Platon du Phèdre, qui, comme nous l'avons vu, fait l'éloge du délire. Mais disons que cet aspect de la pensée de Platon semble bien oublié, hein, lorsque saint Paul dialogue avec les philosophes à Athènes, sur la colline de l'Aréopage, hein, confère Actes des Apôtres 17, 16, 32, et puis aussi 1 Corinthiens 1, 22, 25, ces philosophes que saint Paul rencontre ne sont pas prêts de comprendre la folie de la croix, hein, que Paul, lui, comprend, précisément parce qu'il a été touché par la grâce, et avec quelle violence. Donc nous voyons ainsi que, lentement préparé dans l'Ancien Testament, la notion de grâce s'éclaire définitivement dans le Nouveau Testament. Et désormais, dit saint Paul, la grâce est apparue. Nous avons connu l'amour de Dieu. Il s'est manifesté parmi nous. La grâce est un amour. La charisse est une agapée. Et Jean précise que c'est la passion du Christ qui est la plus haute grâce, justement, accordée à l'humanité. À ceci, nous avons connu l'amour, agapée. Celui-là a donné sa vie pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour, agapée. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Et ceci se résume dans la formule de l'évangile de Jean, 15.5, qui sera rappelé par les conciles contre tous ceux qui nieront ou déprécieront la grâce. Je cite, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », et je cite le verset entier, hein, « Je suis la vigne, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà donc quelques données scripturaires. Elles nous suffiront peut-être pour entamer une réflexion sur l'abîme qui sépare la révélation biblique des dieux de la Grèce et de la grâce grecque chère à Schiller. Il y a très peu en commun, en effet, vous le voyez, entre la grâce biblique, cette grâce ciblée allant de personne à personne, et la grâce grecque. Les charites ne veulent rien à l'égard de quiconque. Elles ne veulent pas plaire, ni donner, ni recevoir d'action de grâce, d'ailleurs. Alors, il est bien vrai qu'elles plaisent, et qu'elles donnent, mais c'est parce que telle est leur nature. De la jeune fille, ou de l'éphèbe à la fleur de l'âge, un charme émane, mais qui est le fruit de leur nature, et non pas de leur décision, de leur volonté, d'aucune intention ou sentiment, hein, quel qu'il soit. Cette conception anonyme et inintentionnelle des réalités transcendantes se prolonge dans le platonisme et le néoplatonisme. Les êtres dotés de charisme, au sens grec du terme, sont comme sera l'un de Plotin, qui cause l'émergence du monde, mais dont le mode d'agir est celui d'un soleil qui rayonne continuellement, hein, conformément à son essence, sans pouvoir retenir ses rayons. Je cite Énéade 5.1, ce qui revient au traité 10, selon la nouvelle classification des œuvres de Plotin. Hein. Et c'est dans le chapitre 6 de ce traité, un rayonnement émane de lui, l'un, alors même qu'il reste immobile, comme c'est le cas du soleil, qu'une lumière resplendissante environne, comme si elle courait autour de lui, et qui surgit sans cesse de lui-même. De l'un plotinien, donc, émanent les hypostases et toute la hiérarchie des êtres, sans qu'il songe intentionnellement ni à les envoyer, ni à les retenir, et sans même surtout qu'il puisse les retenir, exactement comme le soleil rayonne sans pouvoir s'en empêcher. Et le corollaire est que les êtres qui émanent ainsi de l'un et des hypostases plotiniennes ont une sorte de droit à être, hein, puisque leur créateur, l'un, n'a pas pu ne pas les créer. L'émanation est un processus nécessaire, ce qui confère aux réalités émanées un statut ontologique stable. Je cite le même texte de Plotin, hein, un peu plus loin, ce qui est toujours parfait, l'un, engendre sans cesse, et engendre quelque chose d'éternel. Et au chapitre suivant, 7, puisque l'intellect est parfait, il devait engendrer, parce qu'une puissance aussi grande ne pouvait rester sans descendance. Alors que la grâce chrétienne, elle, est étrangère à toute nécessité. Elle est voulue. Elle est délibérément donnée par quelqu'un. Le Dieu biblique est créateur parce qu'il veut créer. Et c'est ce qui est bien expliqué par saint Augustin, qui certes connaissait le paganisme, le platonisme et le néoplatonisme. Dans la théologie de la création qu'il nous propose dans son commentaire de la Genèse, de Genesis ad Litteram, ou dans les livres 11 à 13 des Confessions, il trouve la réponse à l'énigme de la création du monde et de l'homme dans le récit de la Genèse. C'est le fameux Fiat Lux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et il en fut ainsi. Etc. Tout au long des six jours de la création. Qu'apparaissent les continents, dit Dieu, hein. Que la terre verdisse de verdure, que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants, que la terre produise des êtres vivants, et jusqu'à Dieu dit faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 3, 26. Alors, l'être des choses résulte ainsi, note saint Augustin, d'une parole créatrice de Dieu. Ergo dixisti et facta sunt, atque in verbo tuo fecisti ea. Tu as parlé, dixisti, et les choses et les êtres ont été faits, hein, facta sunt, et tu les as créés par et dans ta parole, in verbo tuo fecisti. Confession 11, 5, 7. Or, on ne parle que si l'on a envie de parler, et si l'on a quelque chose à dire. Ce qui revient à dire que le Dieu biblique aurait fort bien pu ne pas créer s'il ne l'avait pas voulu. Ce qui implique à son tour que s'il a créé, il l'a nécessairement fait dans une certaine intention. En corollaire, alors que, comme je l'ai dit, les êtres qui émanent des hypostases plotiniennes ont une sorte de droit à être, puisque leur créateur, l'un, ne pouvait pas ne pas les créer, hein, eh bien, les créatures du Dieu biblique, elles, n'ont aucun droit de ce genre. Elles ne sont que parce que Dieu veut qu'elles soient, et aussi longtemps qu'il veut les maintenir dans l'être. Ontologiquement donc, elles sont par elles-mêmes un pur néant qui retournerait au néant si Dieu cessait de vouloir qu'elles existassent. Mais cela même leur confère paradoxalement une inestimable valeur. Comme le dit un excellent éditeur des Confessions, le père Solignac, je cite, « Sans doute, dans cette perspective, la valeur des êtres paraît-elle au premier abord plus précaire, puisque par eux-mêmes ils ne sont rien, mais en réalité, la générosité et la gratuité créatrice, hein, c'est-à-dire précisément la grâce de Dieu, hein, leur donnent d'exister en vertu d'une pensée de bonté et d'amour. Bon, en d'autres termes, si Dieu a voulu que l'humanité soit, c'est bien parce qu'il avait une intention à son sujet, un projet. C'est parce que les hommes avaient de la valeur à ses yeux, parce qu'il les aimait. Et c'est bien ce que dit Isaïe, hein, « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as un prix, et je t'aime. » Isaïe 43, 4. Quand le psaume demande « Qu'est-ce donc que l'homme pour que tu t'en souviennes ?»« Le fils d'Adam pour que tu le veuilles visiter. Hein, » Psaume 8, 5. On est bien obligé de répondre « L'homme, décidément, est quelque chose aux yeux de Dieu. Hein. Il est bien plus que le contraire du néant. Il n'est pas simplement un être. Ontologiquement, certes, il est nul, mais moralement, il est quelque chose, puisqu'il peut causer en Dieu même des sentiments, hein, soit crainte et déception, colère, oubli rageur, hein, comme on l'a vu, ou au contraire, pardon et amour et volonté de prendre la défense de l'homme. Donc l'homme est vraiment, pour citer hors contexte cette expression fameuse de Lévinas, un autrement qu'être, et dès lors, peu lui importe de n'être rien. Eh bien, c'est à l'humain ainsi pensé qu'il est question d'accorder ou de ne pas accorder une grâce. En résumé, avec la révolution biblique, on sort décidément de l'ontologie grecque, de l'anonymat de l'être, de la nature, des lois naturelles. La grâce chrétienne n'est pas une manifestation de la vie naturelle et anonyme. Elle suppose un au-delà de l'être, un au-delà de la vie. Elle implique des personnes, tant du côté de celui qui donne sa grâce que de celui qui la reçoit. Elle implique conscience, volonté, liberté, et d'ailleurs avec la liberté, la responsabilité, c'est-à-dire la capacité et donc le devoir de répondre de ce qui va mal dans le monde. C'est ce devoir même qui révolte le lion Nietzsche. Ceux qui tiennent absolument à revenir au dieu de la Grèce et au monde idyllique où régnaient les trois grâces, doivent assumer de revenir aussi à un monde sans liberté, justement, et sans responsabilité, sans ce que nous appelons, dans la civilisation occidentale, la personne humaine, les libres et responsables. C'est l'écueil où se brise, à mes yeux, tant la philosophie de Nietzsche que celle de Heidegger, en dépit de leur très grande séduction. Hein. Mais cela demanderait évidemment d'autres développements sortant du cadre de notre dissertation. Alors, resterait maintenant à présenter la suite de l'histoire de la notion de grâce dans le christianisme, car il y a eu tout au long des siècles des controverses et des conflits très graves au sujet de cette notion, puisque rien de tout ceci ne va de soi. Et vous connaissez ou avez entendu parler de ces controverses, hein, pélagianisme, semi-pélagianisme, réforme luthérienne et calviniste, jansénisme. Alors, bien entendu, je ne puis ici en dire qu'un mot extrêmement rapide, un pélage. Est un homme qui était né en Grande-Bretagne vers la fin du IVe siècle. Devenu moine, il vint à Rome, se forma en lisant les Pères, notamment Origène. Il quitta Rome après le sac de la ville par Alaric en 410 avec son disciple Célestius. Ils passèrent par la Sicile et parvinrent à Carthage. Là, ils se séparèrent, Pélage allant en Palestine, et à Carthage, Célestius fit école, ayant des disciples comme Julien des Clanes, hein, contre lesquels saint Augustin va ferrailler dans ses fameux traités anti-pélagiens. Alors, quelle était leur pensée ? Pour les pélagiens, il n'y a pas de péché originel. L'homme peut toujours, de lui-même, faire le bien. Et puisqu'il n'y a pas de péché originel, le baptême n'est nécessaire que pour effacer les péchés actuels de ceux qui en ont commis. Et Pélage et ses disciples ne nient pas la grâce, mais ils appellent grâce les biens naturels créés par Dieu, et notamment le libre arbitre donné par Dieu, ainsi que la révélation. Ceci ayant été donné, tout va bien, la balle est maintenant dans le camp des hommes, il n'est plus besoin de nouvelles grâces, ou du moins si elles interviennent, ce sera non pas pour que l'homme accomplisse les préceptes, mais pour lui permettre de les accomplir mieux. Hein. Donc la grâce, au sens strict, n'est pas nécessaire pour le salut. Alors ces thèses furent condamnées par un concile à Carthage en 418, hein, du vivant de saint Augustin, mais ce ne fut pas la fin du pélagianisme, puisqu'il y eut peu après les semi-pélagiens, ou provençaux du 5e siècle. Il ne s'agissait pas de n'importe qui, hein, mais de saint Honorat et de Jean Cassien, qui sont les principaux fondateurs du monachisme en Europe occidentale. Alors on comprend qu'en tant que fondateurs de monastères, ils aient eu du mal à adhérer aux thèses anti-pélagiennes radicales de saint Augustin, car si la libre volonté humaine ne peut rien pour le salut, à quoi serviront les ascèses des moines, hein, leurs prières, leurs bonnes œuvres? Donc les provençaux du 5e siècle élaborèrent un pélagianisme mitigé, hein, que les théologiens appelleront semi-pélagianisme que bien plus tard, hein, au VIe siècle. Et donc ils admirent, eux, le péché originel et la nécessité de la grâce. Mais ils rejetèrent la doctrine augustinienne de la prédestination, qui faisait dépendre entièrement le salut du choix divin. Et plaidant pour le libre arbitre et l'efficacité des actes ascétiques, ils voulurent au moins que le commencement du salut vint de l'obéissance de l'homme et non de la grâce. L'homme peut vouloir le bien, même s'il ne peut l'accomplir sans la grâce. Or, même cette position a été condamnée par le concile d'Orange de 529. Il est intéressant de voir, dans le canon 3 de ce concile, les raisons précises de cette condamnation. Si quelqu'un dit que la grâce peut être conférée à l'appel de l'homme, et que la grâce elle-même ne fait pas que Dieu soit appelé par l'homme, il contredit l'apôtre qui dit lui-même « Je me suis fait trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis révélé à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » Épître aux Romains 10, 20. Eh bien, si quelqu'un dit cela, qu'il soit un anathème, hein, comme on dit dans les conciles. Alors, l'objection est donc que la thèse semi-pélagienne, selon laquelle l'homme peut chercher Dieu de lui-même, contredit saint Paul, mais pas seulement saint Paul, puisque saint Paul ne fait ici que reprendre cette exclamation d'Isaïe, hein, « Je me suis laissé approcher par qui ne me questionnait pas, je me suis laissé trouver par qui ne me cherchait pas, j'ai dit « me voici » à une nation qui n'invoquait pas mon nom hein, », Isaïe 65, 1. Et c'est ce que vous y avez peut-être pensé de vous-même, à ce que redira Pascal dans la fameuse parole hein, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Pensez Brunswick 553. Donc pour trouver Dieu, il faut le chercher, mais c'est parce que Dieu s'est déjà manifesté par sa grâce que l'homme a l'idée même de le chercher. La querelle de la grâce reprend avec virulence au XVIe siècle, avec la Réforme, où la doctrine de la prédestination est durcie en un anti-pélagianisme radical qui réduit à presque rien la liberté humaine, avec Baius, Jansénus et le jansénisme, Voyez à ce sujet les provinciales de Pascal. Vaste dossier que je n'ouvrirai certes pas ici, car la théologie chrétienne de la grâce est passionnante, très riche, mais aussi très complexe, très nuancée, hein, et il serait fâcheux de la traiter superficiellement. D'ailleurs, si vous essayez de le faire dans une dissertation de philosophie, vous contrarierez peut-être le correcteur. Mais je peux du moins évoquer quelques-unes des questions débattues au long de tous ces siècles pour que vous en ayez une idée. Je puiserai mes informations surtout dans le traité Initiation théologique de 1963, édition du Cerf, que j'ai déjà cité, où les chapitres sur la grâce sont l'œuvre des pères Henri et Menu. Alors je vous en donne ici quelques échos, hein, en tremblant un peu, car je ne suis pas sûr d'avoir tout parfaitement compris, et de toute façon je ne peux pas être complet. Mais enfin, vous aurez quand même quelques aperçus, hein, qui vous permettront de voir, et c'est ça notre propos, hein, toute la distance qu'il y a entre la conception chrétienne, et plus précisément catholique, comme vous allez voir, de la grâce, par rapport à la grâce, à la charisse du Phèdre de Platon, ou cette charisse qu'on retrouve aussi chez Plotin. Commençons par une belle citation de Saint Jean. Hein. « La grâce est une semence, le mot grec est sperma, de Dieu. Hein. » Premier épître de Jean 3,19. Une semence donc que Dieu met en nous et qui est destinée à croître et à produire du fruit jusqu'à la vie éternelle. Alors pourquoi cette semence est-elle nécessaire, contrairement à ce que pensaient les pélagiens? C'est en raison de la misère de l'homme, du péché originel, qui rend l'homme incapable désormais de se sauver par lui-même. Et saint Paul n'évoque jamais la grâce que sur ce fond de tableau de la faiblesse de l'homme et de l'impuissance du pécheur. La chute, en effet, a altéré tant l'intellect que la volonté de l'homme. Il a donc besoin d'un secours pour assimiler la révélation des mystères proprement surnaturels. Il ne peut y avoir de connaissance lorsque l'objet est absolument hors de proportion avec l'intelligence, et il est donc nécessaire qu'un surcroît de puissance habilite l'intelligence humaine à entrer en communion avec l'objet divin, et ce surcroît de puissance est la foi, qui est précisément donnée par la grâce. Et donc l'homme, au cours de l'histoire, est passé en effet par différents états, état de nature intègre au paradis terrestre, état de nature déchu après la chute, et état de nature racheté par la grâce. Et l'état de nature a donc été racheté par le bon vouloir gracieux de Dieu, qui en outre a instauré cet intermédiaire qu'est l'Église, dont les sacrements transmettront les grâces. Mais en portant ainsi secours à l'homme, Dieu ne détruit-il pas la liberté humaine? Ne la rend-il pas simplement inutile, comme l'ont pensé, ou quasi pensé au fond, tous ceux qui ont parlé d'une prédestination de l'homme? Non, car sans la grâce, l'homme ne dispose que de sa liberté naturelle, qui ne lui permet d'atteindre que les fins naturelles. Et pour qu'il discerne, vise et atteigne la fin surnaturelle qui est la sienne, il lui faut quelque chose de plus, qu'il n'a pas de naissance, ou du moins qu'il n'a plus, précisément depuis le péché originel. Et c'est la grâce qui peut seule le lui donner. Alors seulement, il sera vraiment libre de choisir. Et il faudra qu'il use de cette liberté supérieure. En effet, la liberté humaine est requise pour le salut. Dieu ne nous sauve pas sans nous. Hein, et voilà la réfutation catholique d'un certain protestantisme. Saint Paul a dit que le juste vit par la foi, mais cette foi vive peut opérer par la charité. Donc Dieu nous justifie, mais de telle façon que ce qu'il fait en nous, nous le fassions nous aussi. Et nous devons donc choisir librement de le faire. Et c'est ce que dit le psaume 51, verset 12, hein, « Dieu crée pour moi un cœur pur ». Et la deuxième épître aux Corinthiens, 5, 17, « Si quelqu'un est au Christ, il est une nouvelle créature, l'ancien est passé, tout est neuf, tout vient de Dieu ». Ce que saint Augustin résumera ainsi, « Nous avons certes des mérites, et il faut que nous les ayons, mais nos mérites mêmes sont des dons de Dieu, hein, de la grâce et du libre arbitre, 1, chapitre 20 ». Alors, les théologiens insistent sur cette idée fondamentale que nous avons déjà rencontrée tout à l'heure, hein, et qui a été dégagée après des siècles de controverses qui ont permis au magistère de préciser le dogme. C'est que Dieu prend la première initiative. Et c'est la phrase de Pascal, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé ». Et on peut citer à l'appui de ceci plusieurs sources scripturaires, parmi lesquelles 1 Épître de Jean 4, 19, c'est lui qui nous a aimés le premier, ou Évangile selon saint Jean, chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, sans moi vous ne pouvez rien faire », Évangile de Jean 15, 5, que nous avons cité tout à l'heure. Et ajoutons que c'est le Christ qui, par sa passion et sa résurrection, nous a mérité cette grâce. Il n'y a pas de grâce touchant l'homme qui ne soit participation à la grâce obtenue par le sacrifice du Christ. Le Christ nous a adoptés, et c'est cette grâce d'adoption, comme disent les théologiens, qui permet aux humains de dire à Dieu « Père » comme le Fils lui-même le dit. Ceci dit, cette grâce initiale, disent toujours les théologiens, pourra et devra être suivie d'autres, et c'est ici qu'il faut distinguer grâce actuelle et grâce habituelle. Les grâces actuelles sont celles qui permettent de promouvoir ou de réaliser des actes précis de connaissance ou de volonté. Elles sont donc des secours transitoires, des impulsions d'un instant qui cessent lorsque l'action est achevée. Mais la grâce initiale peut procurer aussi un don permanent, un habitus, une grâce habituelle. La faveur qu'elle accorde peut dépasser le plan des secours passagers, donc, pour nous introduire dans un commerce habituel d'amitié et de filiation avec Dieu. Et cette idée aussi a des sources scripturaires. Je cite 1 Épître de Jean 3:1 « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, ce que nous sommes en effet. » Et 2 Épître de Pierre 1:4 « Il vous a mis en possession de grandes et précieuses promesses afin de vous rendre participants de la nature divine. » Et le Père Menu donc commente « Entre Dieu et l'homme que sa faveur atteint, s'établissent donc des liens durables, fondés sur un don permanent, qui vient sceller en l'homme cette situation nouvelle. La grâce est alors en nous comme une seconde nature, un habitus. Et donc la grâce habituelle fait de nous des enfants de Dieu, des êtres divins. Alors, il faudra quand même d'autres grâces, des grâces actuelles, car, je continue à citer le chapitre de l'initiation théologique, alors que la déification est instantanée, la guérison s'opère peu à peu. Paradoxe de l'homme racheté, fils de Dieu, et cependant homme imparfait dans sa nature même. D'où la nécessité des motions divines spéciales pour soutenir les infinies faiblesses des fils de Dieu sur la terre. Il faut en particulier des grâces particulières, non seulement pour faire le bien, mais aussi pour persévérer dans le bien. Bon, il y a des chapitres à ce sujet, sur la grâce de persévérance. Alors, ces grâces supplémentaires seront par exemple celles apportées par les sacrements. On parle de grâce du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie, de la pénitence, etc. Et d'autres grâces peuvent encore survenir qui changeront l'homme, qui lui donneront des qualités nouvelles, qui inaugureront en lui une vie nouvelle, qui le rendront donc capable d'être plus proche de Dieu, ou de mieux le comprendre, ou de mieux l'aimer, ou de s'acquitter de diverses missions auxquelles seront envoyés les croyants. Et ces dons de la grâce, ces charismes, sont souvent attribués au Saint-Esprit. On parle des dons du Saint-Esprit. Ceux accordés par exemple aux rois, les rois d'Israël, mais aussi, les historiens le savent bien, les rois de France, lors de leur sacre. Alors je cite Isaïe 11:2-5, « Un rejeton sortira de la souche de Jessé, sur lui reposera l'esprit de Yahvé. » C'est pour ça qu'on parle des dons de l'esprit, selon la doctrine des appropriations, qui veut que chaque personne de la Trinité ait une œuvre propre. Eh bien, l'esprit, lui, accorde les grâces, justement. Donc je reprends Isaïe, « Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé, et saint Thomas ajoutera la piété. Mais tout ça veut dire aussi la justice, en fait, parce que la sagesse du roi lui permettra d'être juste. Les théologiens apportent encore bien d'autres nuances et d'autres distinctions, et il y en a une que je vais quand même citer, qui est la distinction entre grâce opérante et grâce coopérante. Idée qui vient de saint Augustin, qui a dit ceci dans ce livre très intelligent, qui est le De gratia et libero arbitrio, de la grâce et du libre arbitre, livre 2, chapitre 17. Il dit ceci, « Dieu lui-même opère en nous pour commencer, et pour achever, il coopère avec ceux qui veulent. » Et saint Augustin cite saint Paul, Philippiens 1:6, « J'ai confiance que celui qui opère en vous une œuvre excellente, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Pour que nous nous mettions à vouloir le bien, Dieu a l'initiative, il opère sans nous, afin de toucher notre volonté. Mais lorsque nous voulons, lorsque notre propre vouloir passe à l'acte, il coopère avec nous. Donc Dieu a l'initiative, il opère sans nous d'abord, mais ensuite, lorsque nous voulons faire le bien et que nous le faisons, il coopère avec nous. Donc, c'est une idée pleine de conséquences, vous vous en doutez, pour la conception de l'histoire, hein, puisqu'elle enrichit les idées de gouvernement divin et de providence. Mais ce sont encore de longs chapitres de théologie qu'il faudrait ouvrir. Voilà, eh bien, nous pouvons en venir maintenant à la conclusion de notre dissertation, où je suis bien conscient que vous n'auriez pas pu écrire de toute façon tout ce que j'ai suggéré au long de cette correction de dissertation. Mais enfin, vous auriez peut-être pu essayer. Alors donc, concluons. Repassons dans notre esprit les diverses acceptions de la grâce que nous avons successivement évoquées. La grâce naturelle de certaines choses, de certains êtres, d'un certain âge, des arts, et de l'un d'entre eux en particulier, la danse. La grâce comme transcendance païenne, la charis des Grecs et les charites. Enfin, la grâce chrétienne. Nous devons nous demander si peut-être, malgré la diversité et la stricte incompatibilité de ces acceptions au plan conceptuel et doctrinal, il n'y aurait pas tout de même entre elles quelque chose de commun, de nature à retenir l'attention du philosophe, à susciter ses questions. Ce que Voltaire dit dans l'article « Grâce » de son dictionnaire philosophique va nous aider à préciser un point important. Voltaire admet certes que la grâce existe chez les êtres naturels, mais il ne voit là rien d'extraordinaire. Dans l'esprit des Lumières, fasciné par les sciences de la nature naissante, il pose en thèse en effet que le monde est régi par des lois de nature qui sont universelles, et il ne l'est par aucune détermination particulière, singulière, qui concernerait par exemple un peuple, une personne, une circonstance. Dieu n'est qu'un grand horloger qui, ayant donné ses lois au monde, laisse se dérouler les mécanismes de ses lois dans le monde sans y intervenir. Alors, évidemment, évaluer selon ce paradigme, l'idée de grâce est absurde. Plus grave, elle est primitive. Elle relève de l'esprit magique, de ce que Auguste Comte appellera, quelque temps après Voltaire, l'état théologique de l'humanité dont il faut d'urgence sortir. Donc, seuls des arriérés peuvent encore prendre au sérieux ces contes de fées. Il ne faut pas croire que le genre humain, par exemple, soit dans la nature une exception, pouvant échapper aux lois naturelles, et encore moins, faut-il croire, au caractère unique de personnes individuelles au sujet desquelles Dieu aurait quelque intention spéciale. Il est simplement faux que l'humanité ou des personnes individuelles puissent bénéficier de quelques grâces ou dispositions particulières. Tous les êtres existants dans l'univers sont soumis aux mêmes lois. Et Voltaire, donc, de railler les théologiens, d'ailleurs avec la finesse et la verve qui lui sont coutumières, quand ils ont parlé de grâce suffisante, efficace, nécessitante, habituelle, actuelle, etc., ils n'ont dit que des sottises. Et s'ils avaient voulu ridiculiser la Providence, ils ne s'y seraient pas pris autrement. C'est encore le jésuite Bouhours, un savant du XVIIe siècle, qui, en disant que la grâce est un je ne sais quoi, en a donné la meilleure définition. Bon. L'idée de Voltaire, donc, c'est que Dieu ne fait jamais acception de personne. Et c'est sur cette base que l'auteur de Candide croit pouvoir se moquer de tous les croyants. À sa suite, nombre de penseurs estimeront, en effet, que tout ce qui peut se passer d'extraordinaire, de rare, de frappant, de séduisant, de miraculeux dans nos vies, n'est que l'effet d'un certain arrangement de nos atomes, de nos cellules, de nos neurones. On peut entreprendre d'en analyser les causes, mais il n'y a pas lieu d'y voir quelque chose de réel et de substantiel, une réalité détachée du monde, donc un absolu, c'est, absolu veut dire détaché, hein, quelque chose donc qui vaudrait par soi, qui aurait une signification propre et originale. Pas de chemin de Damas qui tienne, pas de révélation, pas de coup de foudre, pas d'amour, pas de plus belle fille du monde, pas de chef-d'œuvre de l'art, pas d'événement providentiel. Il n'y a que des phénomènes réguliers. Et si nous voulons y voir autre chose, c'est que nous sommes égarés, hein, soit par des cadres de pensée irrationnels, théologiques ou métaphysiques, soit par nos passions et autres pathologies psychologiques. Pourtant, une phénoménologie exacte aurait matière à se moquer en retour de Voltaire et de ses émules. Car enfin, même si c'est un mécanisme d'horloge qui régit le monde, ce que personne n'a jamais prouvé, c'est un fait que nous ne connaissons pas et ne connaîtrons pas de sitôt ce mécanisme. Il y a donc toujours pour nous du nouveau, de l'imprévu, des choses extraordinaires qui surviennent, des choses rares qui n'entrent exactement dans aucun de nos cadres habituels de pensée. Les grâces du renouvellement de la nature à chaque saison, de la jeunesse à chaque génération, celles des chefs-d'œuvre de l'art dont a parlé Schiller dans Die Künstler, et parmi ces arts de la danse, et aussi la singularité de chaque chef-d'œuvre, par exemple de chaque grand poème, de chaque grand roman, la grâce unique de la Chartreuse de Parme, ou de François Le Champy, de Georges Sand, qui a tant charmé le jeune Proust et dont il a si bien parlé ensuite dans La Recherche, ou le miracle de la suprême beauté musicale qui se produit ou ne se produit pas à chaque concert sans qu'on puisse rien prévoir, ni expliquer, ni corriger. Il faut assurément prolonger cette liste. Il faut lui ajouter les mystères jamais entièrement sondés de la nature et du cosmos, qui sont déjà fascinants par eux-mêmes, mais qui le sont encore plus lorsqu'on constate qu'ils se multiplient à mesure même qu'on les dévoile, puisque chaque avancée de la science, loin de nous rapprocher de son achèvement, comme lorsque nous ajoutons les dernières pièces d'un puzzle, nous fait découvrir des problèmes inédits, d'autres mystères que la science, qui ne s'y attendait pas, doit maintenant entreprendre d'explorer. De sorte que, loin de désenchanter le monde, la science est une aventure humaine toujours ouverte, causant à chacune de ces étapes de nouveaux enchantements, justement. Et pourquoi ne pas évoquer aussi les inventions techniques géniales, hein, je sais pas, les rovers que l'on pose sur Mars, ou encore les progrès stupéfiants de la médecine, hein, qui font que des aveugles recouvrent la vue, que des hémiplégiques sont remis sur pied, réalisant ainsi, dirait-on, les prophéties bibliques. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds s'ouvriront, alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie. Hein, Isaïe 35, 5, 6. Eh bien, n'est-ce pas quelque chose comme une grâce que ceci se réalise de temps à autre dans notre monde, entretenant l'espérance? Cette présence de la grâce dans le monde nous oblige donc, je pense, à dépasser la plate métaphysique de Voltaire, à la métaphysique de la continuité, au monisme ontologique fermé. On peut opposer une métaphysique de l'altérité, du pluralisme des choses et des êtres. Et même si le philosophe a du mal à croire à la charis grecque ou à la grâce chrétienne, il peut et il doit s'interroger au moins sur ces belles choses fugitives, inexplicables mais indubitables, sur ces transcendances qui ne sont pas hors du monde dans quelque arrière-monde, mais se font jour au cœur même du monde, dans la nature, dans les êtres humains, dans les événements, dans certains enchaînements de circonstances qui transforment nos vies. Ces phénomènes qui défient la raison ordinaire obligent peut-être à penser que le monde n'est décidément pas proportionné à nos facultés intellectuelles. Or, s'il est disproportionné à nos facultés, il est rationnel de dire qu'il n'est pas créé par nous et que nous ne le dominerons jamais comme nous maîtrisons une machine que nous aurions fabriquée nous-mêmes. Alors, quelle conclusion la philosophie peut-elle tirer de ce constat ? Eh bien, il est regrettable, justement, que la grâce n'ait pas été jusqu'à présent un concept central ou important de la philosophie, qu'elle n'ait pas été traitée avec profondeur par de grands philosophes, car nous serions peut-être aujourd'hui plus avancés. Mais il est peut-être temps encore de se mettre à l'ouvrage. En tout cas, si le philosophe veut avoir une chance d'éclairer un jour cette notion, il doit commencer par être effectivement sensible à la grâce inexplicable des choses, des êtres, des événements. Ce qui revient à dire qu'il ne doit pas rester toute sa vie dans la pesanteur. Car comme le dit Simone Weil, tous les mouvements naturels de l'âme sont régis par des lois analogues à celles de la pesanteur, la grâce seule fait exception.